7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, vivre par procuration ou sous-traiter sa vie via Internet, c'est l'expérience d'un journaliste pendant plusieurs mois. Bonjour Nicolas Santolaria.
Bonjour.
Vous avez délégué un maximum de corvées du quotidien à des sites spécialisés, achats de repas que dans des administrations ou même drague ou même écriture d'articles avec la bénédiction de votre rédaction, le journal Le Monde, pour les besoins de l'enquête évidemment. Vous publiez « Comment j'ai sous-traité ma vie ». Également dans ce studio, Guy Birenbaum, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à France Info, alors vous revenez de loin, vous avez raconté votre burn-out dans un livre précédent, en partie à cause d'Internet, pas seulement, mais... et vous publiez aujourd'hui une forme de réconciliation, petit manuel pour dresser son smartphone. Forme de mise à distance, finalement.
De mise à distance souriante.
Ouais. Et quant à vous, les voisins, quels sont les sites, les applications qui ont changé votre vie en faisant, par exemple, des choses à votre place? Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Victor est un voisin tchadien et il nous dit qu'il utilise l'application GPS Map pour se déplacer dans des endroits qui lui sont inconnus à N'Djamena. Je localise les banques, les restaurants, les hôtels ou encore les hôpitaux pratiques dans des villes, dans des capitales africaines où précisément il n'y a pas d'adresse. Eh bien, on va sauter l'étape de l'adressage, comme on dit, et maintenant, ça sera le GPS. Hein.
Pour peu qu'il fonctionne bien.
Pour peu qu'il fonctionne bien et qu'il y ait évidemment de la 3G ou du Wi-Fi là où on est. Kevin est à Lubumbashi, au sud de la République démocratique du Congo. Il nous dit qu'il utilise souvent Google+, qui lui permet de traduire toutes les langues officielles sur les questions difficiles. Et il y a de quoi faire chez lui, entre le Lingala, le Swahili, le Chiluba, le Kikongo et le français. Awa alors, nous dit « Mon mari vit de l'autre côté du monde. Ce sont les applications comme WhatsApp qui nous font vivre notre relation. » On se drague, on s'envoie, c'est joli, entre mari et femme. On s'envoie des vidéos, on prie même ensemble le soir sur WhatsApp. Et je me disais qu'il y avait bien une application spéciale pour prier à deux, non? Vous n'avez pas trouvé ça, Nicolas Santolaria?
Alors, j'ai pas cherché pour la prière. Je trouve que je préfère faire ça par moi-même, à l'ancienne, je dirais.
Si ça n'existe pas, ça va exister.
Ça risque d'exister. En tout cas, j'ai vu sur la porte de l'église que, justement, il y a un message à propos du smartphone qui dit à peu près ceci. Il dit « Vous allez peut-être être contacté par Dieu durant la messe, mais il y a peu de chances que ça passe par le smartphone. Donc, éteignez votre téléphone.
» Appelez-nous, les voisins et les voisines. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie via les applications et l'Internet? Et qu'est-ce que vous pouvez désormais délégué 33 1 84 22 71 71.
Okay. 7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Nous accueillons une voisine qui nous appelle de Yaoundé. Bonjour Christine, amie camerounaise.
Bonjour Emmanuel.
Alors Christine, est-ce que vous vous êtes débarrassée de certaines corvées via des plateformes ou des applis?
Je parlerai de OneNote. En général, ça m'aide pour les courses. Donc, j'établis une liste de courses au préalable que j'enregistre sur OneNote.
Oui.
Et à chaque fois que je fais mes courses, je peux cocher sur OneNote tout ce dont j'ai besoin. Bon, après, si je n'ai pas le temps de faire les courses, je peux partager la liste avec un de mes amis. Et il a la possibilité de gérer.
Ouais, donc ça vous évite de réécrire une liste de courses fastidieuse, c'est ça?
Ouais. Et maintenant, au niveau de mon travail aussi, sur le terrain, j'ai souvent des actions où je dois analyser. Et j'ai la possibilité de prendre des notes sur le terrain, prendre des photos. Et j'ai la possibilité de synchroniser l'application avec mes ordinateurs et mes téléphones. Et je peux retrouver mes notes à chaque moment. Mmh. Donc c'est vraiment pratique.
Vous gagnez du temps donc?
Franchement,
c'est ça. Et qu'est-ce que vous faites de ce temps gagné, Christine?
Ça me permet de travailler sur autre chose. Hmm. Parce que j'ai énormément de pression, aussi bien dans le travail que dans la vie. Et je n'ai pas vraiment le temps j'ai pas le temps à perdre. Donc, si je fais gagner du temps, franchement, ça m'arrête.
Oui, gagner du temps, mais la pression ne s'en va pas. Hein. Guy Birenbaum.
Mais gagner du temps pour utiliser son smartphone pour autre chose, en fait. C'est ça qui est formidable, parce qu'on n'accepte plus. Moi, c'est une des leçons de ce que j'ai observé. Les gens n'acceptent plus de s'emmerder. Et je pense que l'ennui et l'emmerdement, de temps en temps, nous qui avons connu ça, nous qui sommes très vieux bien sûr, c'est pas si mal. Parce que si c'est délégué au smartphone, pour avoir plus de temps pour faire autre chose pour son smartphone...
Ah, pour être plus performant, ouais, nous dit Christine.
Oui, plus performant, mais de temps en temps, la performance, c'est bien de l'arrêter. Quoi.
Aussi performant au travail que pour sa liste de courses. Merci beaucoup Christine de nous avoir appelé de Yaoundé. Très bonne journée à vous.
Je vous en prie. Bonne journée.
Alors Nicolas Santolaria, racontez-nous comment vous en êtes arrivé à sous-traiter votre vie via la technologie. D'où vient cette idée ?
Bah, déjà, c'est le constat qu'on fait énormément de choses rébarbatives au quotidien, qui nous prennent beaucoup de temps, comme faire la queue, apporter les courses, etc. Ça n'a pas véritablement d'intérêt, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de le déléguer, d'autant qu'il y a eu l'émergence ces dernières années de tout un tas de solutions technologiques ou de conciergerie pour nous aider à gérer les tâches du quotidien.
Alors, donc, ça vient des États-Unis, c'est évidemment tout ça. Hein. Vous citez un informaticien américain qui, évidemment, il est informaticien et pas vous, mais qui a automatisé toutes les tâches qui demandent plus de 90 secondes.
Donc, oui, alors voilà.
Donc
oui,
il arrive au bureau, ça, toute sa vie est codée automatiquement et sa cafetière démarre 2 minutes après qu'il ait ouvert la porte de son bureau.
Exactement, oui, il est repéré dès qu'il rentre au travail. Il y a le latte qui tombe comme ça 15 secondes après son arrivée. Pareil, quand il reste trop longtemps au bureau, il y a un message automatisé qui est envoyé à sa femme. Et donc c'est vrai qu'il y a ce mouvement aujourd'hui.
Pas de chance, en fait, il n'est pas au bureau. Mais bah, ouais, il est auprès de son deuxième bureau.
C'est peut-être voilà. Un alibi... C'est peut-être alibi.com. Et effectivement, il y a cette automatisation galopante aujourd'hui qui permet justement de mécaniser des tâches qu'on faisait avant par nous-mêmes. Donc j'ai voulu tester ça en allant le plus loin possible. D'autant que moi, comme vous le disiez, je ne suis pas informaticien et en même temps, je suis un petit peu handicapé dans la gestion de toutes ces choses technologiques. Donc c'est vraiment...
Donc si vous l'avez fait, tout le monde peut le faire.
Tout le monde peut le faire.
Alors ça commence par, évidemment, ubériser par exemple ses repas.
Oui, il y a tous les services de livraison qu'on a vu apparaître ces dernières années, comme les Foodora, etc. Enfin, je ne vais pas citer toutes les marques, mais les rues sont encombrées de livreurs à vélo avec des grosses boîtes carrées dans le dos. Et donc, j'ai testé ça. Voilà, c'est un côté sympa de se faire livrer les repas, mais en même temps, c'est énormément producteur de beaucoup de déchets. Puis, on se retrouve avec des boîtes plastiques.
Et c'est pas très bon. Hein.
Et finalement, c'est pas très bon.
Si je puis me permettre.
Oui, souvent, c'est assez. Ça dépend des restos. On peut les sélectionner. Il y a des bons restos. Il y en a des moins bons, j'ai eu quelques mauvaises surprises, c'est vrai.
C'est quand même pas économique.
Mais globalement, c'est pas très économique. Et puis en même temps, ça va avec une économie où les gens sont assez précarisés. Tous les livreurs n'ont pas véritablement de statut à long terme. Donc voilà, l'envers du décor n'est pas forcément aussi riant que l'affiche du restaurant.
Vous avez découvert les joies du dash button, c'est-à-dire ne plus être à court de produits du quotidien comme son dentifrice, ses préservatifs, ses cartouches d'encre d'imprimante, où la commande se déclenche sans que vous n'ayez à le faire.
Ouais, alors tout ça, c'est une technologie qui est d'ailleurs adoptée par Donald Trump lui-même, puisqu'il a un bouton sur son bureau qui lui permet de commander un coca à tout moment. Et les dash buttons, c'est des petits boutons qu'on colle chez soi. Chaque bouton correspond à un produit qu'on a présélectionné. Et ensuite, dès que le produit vient à manquer...
Qu'on colle où exactement ?
Bah, par exemple, si vous...
Soyez explicite, parce que...
ça fait peur.
Je peux prendre l'exemple des préservatifs. Si vous les entreposez dans la salle de bain, vous collez le bouton dans la salle de bain ou à côté du lit au choix. Pour le dentifrice, pareil. Si c'est, mettons, des sacs poubelles, vous mettez
d'accord.
ça à la cuisine. Et donc, il y a des petits boutons un petit peu
le
partout.
Le bouton est relié à quoi ?
Le bouton est relié à Amazon. Et donc, Amazon vous envoie le produit. Vous le recevez en général le lendemain.
Donc, relié quoi ? Par un fil ? Par des ondes ?
Par Bluetooth. Par Bluetooth, ouais. Sauf que, alors, le souci, c'est que je pensais recevoir le produit chez moi directement. Et en fait, Amazon, souvent, les livreurs prennent pas la peine de sonner. Donc, il me l'a déposé dans un petit magasin qui était finalement assez loin. Donc, ce qui est censé devenir hyper simple, en fait...
C'est ça. C'est qu'en fait, la livraison se fait plus loin que le magasin à côté de chez vous, où vous auriez pu aller l'acheter si vous aviez une tête, Nicolas Santolaria, ce qui n'est pas votre cas. Puisque moi, je vous ai lu et vous n'avez pas de tête, je vous le dis.
Alors, en fait, le système, il est inspiré des supply chains dans la distribution. C'est-à-dire qu'à chaque article vendu dans un magasin, il y en a un nouveau qui est commandé en stock à l'usine. Hein. Tout ça est inspiré de ce qui se passe déjà dans l'industrie.
Totalement, ouais. C'est aussi ce qu'on appelle le flywheel effect, c'est-à-dire on essaye de vous maintenir dans un écosystème donné, là en l'occurrence le Amazon. plus vous restez, plus vous êtes environné de boutons Amazon, bah, plus vous avez de chances de commander des produits Amazon. Donc c'est l'idée aussi de domestiquer le consommateur pour qu'il soit de plus en plus discipliné, parce qu'on est quand même aujourd'hui dans un mouvement de déconsommation qui s'est amorcé sur beaucoup de produits. Donc il faut d'une certaine manière enchaîner le consommateur.
Éviter de faire la queue grâce à un cyber valet. Jusque-là, c'était réservé à une poignée de gens riches et connus. Vous avez testé?
Oui, j'ai testé. C'est vrai que c'est une promesse qu'on retrouve dans beaucoup de ce type de services. L'idée qu'on va devenir des sortes d'aristocrates low cost, puisque c'est accessible avec le numérique. Et donc, ça, c'est en l'occurrence M. Gustave qui propose de faire à peu
près... C'est le site, hein, M.
C'est
Gustave,
le site
de conciergerie.
Voilà, conciergerie. Donc, il se présente un petit peu avec une fine moustache, comme un concierge d'hôtel, de Grand Budapest Hôtel. En réalité, c'est des jeunes de banlieue qui n'ont pas vraiment de situation économique, qui réalise le service concrètement. On peut lui demander en théorie à peu près tout et n'importe quoi. En réalité, c'est assez réduit, c'est beaucoup de la livraison. Par exemple, moi, je lui ai demandé d'aller faire des photos dans un centre commercial et il a refusé. Alors, je ne sais pas si...
Des photos,
c'était pour un article.
Ah, d'accord, voilà. Pas des photos de vous.
Vous lui demandez d'aller faire des photos dans un centre commercial désert.
Voilà, en fait, c'était pour le décrire dans le cadre d'un article et en même temps, il a refusé. Je me suis dit peut-être qu'il me prenait pour un djihadiste qui était en train de faire des repérages, de sous-traiter ces repérages. Donc il a refusé ma demande. Donc en fait, ce sont des demandes qui sont quand même assez ciblées.
Vous avez aussi tenté de faire des rencontres par procuration, on va en parler, mais Guy Birnbaum, vous êtes ici parce qu'avec votre petit manuel pour dresser son smartphone, vous revenez très loin de votre côté.
Alors c'était comme vous le disiez, Emmanuel, tout à l'heure, si on fait une dépression, c'est pas, ou un burn-out, c'est pas à cause du smartphone, c'est pas à cause
de la sous-traitance de sa propre vie.
Je pense qu'il y a énormément de raisons privées, professionnelles, etc. Mais c'est vrai que, en revanche, si on passe trop de temps sur son smartphone, je pense que c'est un symptôme intéressant qui tend à montrer qu'il y a un souci, qu'il y a un problème. Et comme moi, je passais approximativement de 4h ou 4h30 du matin, ça c'était mon activité professionnelle qui le nécessitait, jusqu'à minuit, connecté avec tout le temps l'écran en fond de tâche, etc. C'est bien qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Donc oui, je reviens de loin de ce point de vue-là et j'ai voulu faire profiter les lecteurs, je dirais, de cette distance que j'ai prise et du fait qu'on vit extrêmement bien, non pas en sous-traitant ses tâches, mais en retrouvant une économie normale, une économie personnelle. Hein, je veux dire, je ne parle pas d'économie au sens économique du terme, et qu'on peut très bien se passer pour tout un tas de choses du smartphone, même si c'est un objet absolument formidable, ce que je ne remets pas en cause. Le problème, ce n'est pas l'outil, ce sont nos mauvais usages. Voilà.
On va en parler, notamment pour les sites de rencontres. Vous avez côtoyé des professionnels qui écrivent et qui séduisent par Internet. C'est Cyrano de Bergerac, hein, finalement. Via des sites Internet, on en discute. Ça sera juste après Raël.
E16, quase final do ano, nem vi o passado dos meses. Eu vivo um momento, uma coisa de cada vez. Eu penso desse jeito, eu já não sei vocês. Eu fui andando pelo tempo e fiz uma reflexão. Vejo pouco casamento e muito mais separação. Forte movimento, manifestação. Vejo brechas no governo e na oposição. E quase tudo é digitalizado. Crime bem organizado, tinha um povo dividido, pós-industrializado. Não vejo investimento no aprendizado. Saneamento básico, improvisado. Esse verso que é escrito na canção que eu conduzo, edito, que acredito, identifico e reproduzo do jeito que as coisas são. Pessimismo não, se pá é daí pra pior. Fico tentando entender, observando ao redor. Difícil de dialogar com os menor que já chega oferecendo pó, cheiro de loló. Que mundo a milhão, veloz. O que acontece, o que fizeste com nós?
Vejo os moleque bem pra frente, já de carro e de corrente. Antigamente era só uma Caloi Cross. Esse é o ritmo de clima apocalíptico. Eu vejo um monte de crítico, analfabeto político. Eu vejo o mundo desse jeito que eu vejo o inimigo escondido. Te abraça e manda beijo. Eu vejo o mundo que eu almejo, mas não vejo direção. Do jeito que as coisas são.
C'est Raël, do jeito. Nicolas Santolaria, je le disais juste avant, vous avez testé également les fameuses rencontres, mais vous avez côtoyé ceux qui exercent le métier de...
Alors, net dating assistante, ça
net
s'appelle.
Net dating voilà. assistante.
C'est un nouveau métier.
Oui.
C'est un peu, oui, comme vous disiez, Cyrano de Bergerac, mais en version 2.0. Donc, c'est des gens qui draguent à la place des autres sur les sites de rencontres. Ils font un petit entretien avec vous au départ pour savoir quels sont vos goûts, vos attentes, votre profil. Et ensuite, ils se glissent dans votre peau numérique et ils draguent à votre place. Des fois, en allant très, très loin, puisque là, en l'occurrence, la personne proposait de faire un enfant à la fille qu'il était en train de séduire.
Ouais. Donc, en lui ayant dit qu'il n'en avait pas, alors qu'en fait, quelques messages avant, il lui a dit qu'il était père de famille. Enfin, bon,
voilà, il s'est complètement... embrouillé.
C'est ça, il mélange les dossiers le type en fait.
Voilà, il mélange complètement les dossiers, donc ça donne lieu à des choses assez cocasses. Et ensuite, la personne qui a commandité la séduction doit rentrer un petit peu sur scène, comme dans un théâtre de boulevard. Donc il faut arriver à retomber sur ses pieds. Et ça, c'est un métier, ça coûte quand même assez cher. Puisque
c'est,
ça coûte,
c'est combien, c'est ça, c'était ça
ouais, c'est, le forfait de base est à 500 euros.
Ah,
et
oui.
ensuite, il faut acheter des charmes. Donc il a une technique qu'il appelle le carpet bombing. Il bombarde.
Qu'est-ce que le carpet bombing ?
Carpet bombing, c'est on lance des charmes comme ça, un peu comme des bombes. Ouais. Et ensuite, on voit ce qui remonte. C'est un peu comme la pêche à la dynamite, sur le même principe. Voilà, il joue sur la loi des grands nombres sur les statistiques et ça marche moyennement bien, puisque après ils vendent ensuite par derrière des coachings en séduction, ouais. Comme souvent les rendez-vous ne
il faut
ratent.
Quelle qualité pour être un sous-traitant de speed dating?
Je pense déjà qu'il faut être un petit peu manipulateur, puisqu'il y a une dimension de manipulation mentale. On se fait passer pour quelqu'un d'autre sans le dire. Ensuite, il faut être assez bon à l'écrit, parce que ça fonctionne quand même pas mal sur des blagues, une façon d'aborder les gens. Il y a une manière, il y a cette technique qu'ils appellent le neg, qui est une technique qui vient des États-Unis. C'est une technique, c'est une forme de compliment qui est en même temps une sorte de compliment dégradant. C'est comme si je vous disais, vous avez un joli sourire, mais dommage que vous ayez une feuille de salade sur les dents, par exemple. Donc ça, c'est un neg. Et ça permet de faire baisser la valeur sociale de la personne en face et donc d'accélérer le processus de séduction, parce que lui, il est vraiment, son but, c'est de séduire le plus rapidement possible, puisqu'il doit décrocher un certain nombre de rendez-vous en un temps donné.
Ouais, alors, vous êtes allé jusqu'à faire des rencontres?
Alors c'est pas moi qui l'ai fait, puisque pour le coup ma compagne n'était pas d'accord,
voilà.
Elle voulait pas que j'aille là, elle avait peur finalement que ça dérape, donc j'ai délégué à des gens, c'est de la délégation au carré ce chapitre, j'ai délégué à des gens qui ont dragué à ma place, donc effectivement ils sont allés jusqu'au rendez-vous, voilà, ça a été sympathique, sans qu'il y ait véritablement au final de consommation,
oui,
charnelle.
Mais sous-dites, en général ça débouche rarement sur de vraies rencontres.
Moi, je suis en désaccord total. Les applis comme Tinder débouchent sur des vraies rencontres.
Ça, c'est autre chose. C'est pas de la sous-traitance, là.
Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que là où Nicolas Santolaria a raison, c'est que ce genre d'appli-là débouche sur pas grand-chose. Mais alors, les autres, celles où vous ne déléguez pas, c'est...
Et où on paye rien.
Où on paye rien, c'est un quart d'heure douche comprise. Et les choses se font vraiment.
Alors, oui. Vous avez tenté de vous faire des amis, de proposer des services d'amitié gratuites. Je ne savais pas qu'on pouvait aussi gagner sa vie en étant sous-traitant d'amis.
Oui, alors ça, c'est quasiment
là, avez...
la...
Sauf que vous proposez gratuitement, ça ne marche pas du tout.
C'est la pire expérience que j'ai vécue, je dirais. C'est un site qui s'appelle Book a Friend et qui permet donc de louer des amis par affinité. Donc, on sélectionne les traits de caractère qui nous intéressent. Et donc, c'est soit payant, soit gratuit. On peut. Donc, moi, je me suis mis en ami à louer gratuitement et je pensais avoir des tonnes de demandes, parce que j'ai aussi envoyé des demandes, j'en ai envoyé 300.
Ça s'appelle un peu Facebook en fait.
C'est un peu Facebook, sauf que ça marche pas, puisque j'ai envoyé peut-être 340 demandes, personne n'a voulu de mon amitié, donc à la fin j'étais voilà. Assez choqué.
Alors qu'aux États-Unis il y a bien des people walkers qui sont payés pour marcher avec d'autres gens et leur faire un petit brin de causette,
ouais.
C'est payé aux alentours de $7 de l'heure. Vous restez avec nous, Nicolas Santolaria, Guy Birenbaum, on se retrouve juste après le flash et bien sûr les voisins, les voisines, vous pouvez réagir ou témoigner si vous sous-traitez certaines tâches de votre quotidien au 33 1 84 22 71 71. Retour dans un peu plus de 3 minutes maintenant.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Nos invités, Nicolas Santolaria, comment j'ai sous-traité ma vie? Je crois qu'on a compris le sujet de l'émission. Hein. On a beaucoup d'exemples depuis le début. Et Guy Birnbaum, petit manuel pour dresser son smartphone. Vous en êtes revenu de ce monde-là. Mais vous étiez plutôt sur les réseaux sociaux, en fait.
Beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais j'ai utilisé aussi certains des services.
Vous avez sous-traité une partie de vos vie à l'époque?
Quand on fait les courses, si on considère qu'on sous-traite, oui, j'ai sous-traité, par exemple.
Vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Quand la sous-traitance touche le monde professionnel, là on rigole beaucoup moins que quand ça concerne la drague. Parce que forcément, on peut se sentir visé. C'est pas nouveau, mais cela touche maintenant des travailleurs indépendants. Je vous propose d'écouter le témoignage de Dali Gary, elle a 37 ans. Elle est auto-entrepreneuse, elle va lancer d'ici quelques semaines un site de e-commerce, deal ethnique, avec des produits africains et antillais artisanaux. Elle a sous-traité toute son activité via la plateforme de microservices 5euros.com que vous connaissez bien, Nicolas Santolaria, et qui met en relation des particuliers. Raphaël Constant l'a rencontrée chez elle dans l'Essonne.
Bonjour. Darly Gary, on est chez vous, dans un appartement au 7e étage d'un immeuble de l'Essonne, en banlieue parisienne, mais on est aussi dans vos bureaux. Pourquoi vous sous-traitez votre travail?
Je sous-traite parce que j'ai pas les moyens en fait de payer en fait les prestataires. C'est un gain de temps aussi, mais c'est surtout par rapport aux finances. Alors c'est en cherchant sur les réseaux sociaux des bons plans. Je suis tombée sur 5euros.com.
5euros.com, c'est une plateforme de microservices française en ligne.
C'est bien ça. Multivendeur où on trouve vraiment toutes sortes de services. Et j'ai compris en fait qu'il y avait des prestataires, alors soit des étudiants, soit des entrepreneurs qui cherchaient à arrondir leur fin de mois ou à se lancer en fait dans l'entrepreneuriat, qui proposaient des prestations de services à partir de 5 euros. Après, il y a la possibilité d'ajouter des options, donc ça peut grimper, mais ça reste vraiment très 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 raisonnable au niveau du tarif par rapport au prix du marché. Par exemple, pour la création de deal ethnique, j'ai vraiment tout sous-traité. De la création du logo, du développement du site internet, les cartes de visite, les présentations. J'ai même une assistante qui m'aide dans mes tâches quotidiennes sur 5 euros. Pour la création du standard téléphonique, des pubs sur les réseaux sociaux, l'emailing, etc. J'ai vraiment tout fait sur 5euros.com. En fait, je suis inscrite depuis 2015. J'ai à peu près un peu plus d'une centaine de commandes. J'en ai eu pour 1200 euros. Je travaille beaucoup avec l'Aigle Noir, par exemple. 96% de respect des délais. Je sais qu'elle a 190 ventes au total. Et donc, vous voyez qu'elle propose 39 services.
Du développement informatique, à l'immobilier, à la photo, à la composition, à la retouche sur des logiciels de photo en ligne. Ça fait quand même beaucoup de compétences pour la même personne.
Ça fait beaucoup de compétences, mais je pense qu'elle a une équipe. Il y a vraiment de tout. Il y a des professionnels, comme il y a des étudiants, comme il y a des autodidactes.
Combien ça vous aurait coûté si vous aviez employé des personnes dans votre société?
Au minimum 10 000 euros pour la création du site internet. Alors que là, j'en ai eu pour 550 euros. Deal ethnique n'aurait pas vu le jour si j'avais dû employer.
Et est-ce que finalement, ça vous dérange pas de sous-traiter votre travail et de sous-payer aussi ce travail?
Non, ça me dérange pas. Ça leur donne aussi de l'expérience. Je laisse vraiment des commentaires histoire de donner envie aux autres de leur commander. Il y en a qui sont à l'étranger même. Hein. J'ai parlé avec une personne qui se trouvait en Inde, une autre qui se trouve en Tunisie, etc. Il m'a dit « je vis de 5 euros ». Je vous cache pas que c'est dommage. J'aimerais bien avoir les moyens de pouvoir payer plus, mais je pense que c'est une relation gagnant-gagnante. Franchement. Et puis, c'est vraiment une forme de libéralisation.
Nicolas Santolaria, Guy Birnbaum. Réaction, Guy Birnbaum.
Moi, je suis consterné. C'est consternant. C'est une forme de libéralisation. Non, c'est une forme d'ultra-libéralisme, d'ubérisation totale. Et surtout, elle fait quoi, la dame, en fait?
Elle va lancer son site. Alors d'ailleurs, j'ai dit auto-entrepreneur. Hein, c'est bien une SARL qu'elle a créée, un site de e-commerce de produits, peu importe les produits d'ailleurs.
En l'occurrence. Oui, mais
énormément de petites entreprises aujourd'hui qui se créent grâce justement à cette sous-traitance extrêmement bon marché.
À savoir combien de temps ils tiennent ensuite. et quel service ils rendent vraiment, parce qu'à mon avis, assez rapidement, au bout de la chaîne, c'est-à-dire celui qui achète le service, je ne suis pas persuadé qu'il soit forcément ravi du service qui va lui être rendu. C'est ça la question.
Alors nous avions hier une intervenante qui vient régulièrement dans cette émission, Chef Anto, et qui elle-même aussi, en tant que traiteur à domicile, nous racontait qu'elle fait appel à une cascade de sous-traitants, des maîtres d'hôtel pour des buffets, une application qui calcule toute la réglementation et la chaîne du froid, vous savez, quand vous êtes dans la cuisine, par exemple. Tout ça est également... sous-traité via des applications. Oui. Vous connaissez bien 5euros.com.
Oui, je l'ai testé. J'ai testé puisque je fais une chronique hebdomadaire dans Le Monde que j'ai sous-traité à 5euros.com. Donc ça m'a coûté 5,70€ avec la TVA. Et c'est vrai que j'étais halluciné de l'existence de ce site et ensuite des tarifs qui sont pratiqués.
Alors comment ça s'est passé exactement?
J'ai fait une commande. J'ai déjà sélectionné. On sélectionne, comme on a entendu dans le témoignage, il y a des statistiques avec des respects de délai, etc., des commentaires. Donc, on arrive un petit peu à avoir des données sur le sous-traitant en question. Donc, j'ai sélectionné mon sous-traitant, ma sous-traitante, qui s'appelait La Scribe, en l'occurrence. Et donc, j'ai ensuite...
La Scribe, qui est cette personne dans la réalité? Une étudiante?
Non, pas du tout. C'est une personne qui fait ça entre deux jobs. Elle n'a pas véritablement de situation. Donc, elle vit de ça, de commandes à bas prix qui s'empilent, puisqu'elle a énormément de commandes. Et donc, je lui ai demandé une chronique sur le thème, la sous-traiter son travail est-il moral ? Donc, elle m'a recontacté assez rapidement.
Composition de philo.
Voilà. Donc, c'était pour ma chronique, en fait. Et deux feuillets. Donc, elle m'a recontacté assez rapidement en me disant « Si tu rajoutes 5€, je te la rends demain. » Alors que sinon, je devrais te la rendre dans 2-3 jours parce que j'ai 13 commandes en attente. Et au final, elle m'a rendu ce travail que j'ai trouvé assez bien fait puisque c'était rendu dans les délais. Il n'y avait pas de faute d'orthographe. Elle répondait à la commande. Elle avait fait des recherches. Et je me dis « Comment est-ce qu'à ce tarif-là,
on peut... » C'est la question que je vous pose.
Finalement, elle enchaîne les commandes. C'est une forme de... Je ne sais pas moi exactement comment elle vit par ailleurs.
On ne peut pas écrire cette chronique-là en moins de quoi? D'une heure et demie.
Oui, il faut au minimum 2 heures de travail pour le faire. Et en même temps, ça tire finalement les tarifs vers le bas.
5€ les 2 heures.
Donc on n'est même pas à quoi? Au quart du SMIC?
À la limite, à ce tarif-là, il vaut mieux faire du babysitting.
C'est beaucoup mieux. Ou du ménage.
Le
ménage est beaucoup mieux payé.
Mais en même temps, c'est le constat d'une dévalorisation des tâches cognitives.
On est en France.
Mais c'est l'idée aussi.
Il ne s'agit pas d'une sous-traitance en Inde, là.
Ouais, pas du tout. Mais en même temps, l'Inde, c'est finalement peut-être votre voisin de Starbucks avec son ordinateur portable. Bah, lui, il est sous-traitant. Il est finalement dans d'autres conditions sociales
que
les vôtres.
Ce qu'on ne sait pas dans cette histoire, peut-être que le scribe, c'est ça, ou la scribe, elle a elle-même 10 ou 15 étudiants qui travaillent pour elle, pour la moitié des 5€. C'est ça qu'on ne sait pas.
Oui, il y a cette idée, idée finalement qui est apparemment très moderne, mais finalement qui est très médiévale, qu'on serait tous des entrepreneurs. Et en tant qu'entrepreneur, finalement, on accepte de sous-traiter. Ensuite, il y a une sorte de sous-traitance comme ça en cascade qui s'organise avec une paupérisation accélérée justement et des tarifs qui sont tirés vers le bas, y compris pour les gens qui se trouvent en haut de la chaîne.
Vous avez notamment acheté des retranscriptions d'interviews. Ça, c'est très fastidieux parce qu'il faut allumer son dictaphone, l'éteindre, noter, etc. Vous avez acheté ces services intellectuels à une plateforme basée à Singapour qui ne vend que des tâches de 15 minutes maximum.
Oui, alors les retranscriptions, j'ai fait ça via 5€, encore une fois. Mais par contre, oui, j'ai utilisé une plateforme à Singapour qui s'appelle TimeServe. Et donc là, c'est des tâches cognitives. C'est essentiellement, moi je m'en suis servi pour la recherche documentaire. L'abonnement, c'est une 60aine d'euros par mois. Et ensuite, on peut commander autant de tâches qu'on veut.
Mais là, c'est via des logiciels ou des personnes humaines?
Non, c'est des personnes humaines qui font ce travail, qui vous recontactent. Donc en même temps, on se dit que cette concurrence, en fait, dans les tâches cognitives, elle est aujourd'hui mondialisée, puisqu'on trouve aussi le même type de service, ce que fait TimeServe, on le trouve aujourd'hui au Maroc, etc., en langue française. Donc, il y a une forme de concurrence mondialisée dans le domaine cognitif qui s'est organisée, notamment via la technologie, parce que c'est depuis qu'on a des connexions Internet que tout ça est devenu possible et abordable. Et en même temps, ça pose question, finalement, dans quel modèle social on est en train de vivre. d'autant que souvent ces plateformes ne reversent pas leurs bénéfices dans les pays sur lesquels elles font des profits. Bon, enfin, c'est le cas d'énormément de sociétés américaines. Donc où est la restitution sociale dans tout ça? Ça pose énormément de questions et je pense que la technologie elle est tellement vite que finalement le législateur et même la société n'a pas eu le temps de réfléchir à tout ça.
Vous ne vous êtes pas du tout demandé là tous les deux si vos métiers allaient disparaître? D'écrire Le mien aussi d'ailleurs.
Je préfère ne pas y penser.
Mais nous parlons, vous et moi, dans un micro, Emmanuel. Est-ce que vous pensez qu'un robot peut faire ce que vous êtes en train de faire?
Non, mais pour la presse écrite.
En tout ça existe déjà. Il y a déjà des logiciels qui permettent d'écrire comme Ernest Hemingway. Il y a déjà des intelligences artificielles qui permettent de faire.
Il y a eu des robots qui parleront comme des humains.
Il y a déjà eu.
Ça existe.
Mais ça existe.
C'est pas. Pour l'instant, on voit bien la différence.
Il y a des romans. Il y a déjà des romans qui ont été écrits par des robots. Les tentatives sont en cours, hein, ça existe, ça c'est bon, on verra. Après, les intrigues sont pas extraordinaires. Il y a même de la science-fiction qui est écrite par des robots et c'est extraordinaire parce que imaginez, là c'est le serpent qui se mord la queue, des textes de science-fiction écrits par des robots, avouez que c'est génial. Non, mais sur la voie plus sérieusement. Bien sûr, il y a chez Google et chez Amazon des assistants maintenant qui permettent, ça s'appelle Alexa, où vous dites, vous lui parlez et il vous envoie le programme que vous voulez. Mais la présentation, l'animation, c'est pas pour tout de suite, hein, faut pas s'affoler non plus.
Alors il y a tout de même de belles découvertes, beaucoup d'universitaires nous écoutent, des étudiants, vous citez des logiciels qui travaillent pour les étudiants, notamment un logiciel libre qui s'appelle Zotero, c'est bien
oui,
ça
oui.
Et qui fait de la bibliographie automatique. Il n'y a pas plus fastidieux comme tâche que de faire une bibliographie quand on écrit.
Je vais hurler si vous continuez. Moi j'ai écrit une thèse, vous voyez, de sciences politiques. Je me suis emmerdé en bibliothèque pendant des... Non mais c'est horrible ce que vous dites.
C'est ça,
la bibliographie, on peut... Moi, voilà. Alors le docteur que je suis, l'universitaire, pardon, je me fâche, c'est pas possible quoi. On ne peut pas sous-traiter une bibliographie, on est chez les fous. La bibliographie, c'est le cœur du travail.
Non, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas lu, attention.
Non,
il s'agit du recensement.
Alors là, c'est une
et de la classification.
C'est une automatisation. C'est vrai que Zotero, c'est devenu la nouvelle star des universités françaises et internationales. C'est plus Deleuze ou maintenant c'est Zotero. Il y a carrément des cours pour apprendre à servir de Zotero. Et donc c'est quelque chose dans lequel vous rentrez justement à chaque fois que vous trouvez un texte qui vous intéresse, vous le rentrez et ça crée des feuilles de style qui vont sortir la bibliographie à la fin dans justement les caractères qui sont demandés, etc. Donc c'est vrai que ça enlève un certain poids. Après effectivement il faut continuer à lire les textes et à produire un avis personnel.
Vous savez bien que ça empêche, en vérité, les gens ne vont pas les lire, les textes.
Non, mais là, il y a tout un aspect tâche de secrétariat qui est fastidieux, qui est long.
Oui, je pense que c'est le côté un peu rébarbatif de la mise en forme qui est prise en charge par Zotero. Après, Guy, je pense que justement, on continue quand même à lire les textes, parce que sinon, il faut au minimum produire un avis personnel. C'est ça, une thèse, en fait, c'est un avis personnel.
Vous dites mais on ne sent pas une grande conviction, façon dont vous le dites.
Non, j'ai pas encore trouvé le logiciel qui écrit la thèse à la place de l'étudiant, mais ça va
venir. On n'en est pas loin. Le copier-coller, il y a des logiciels, maintenant, on est obligé d'avoir des logiciels pour reconnaître le copier-coller, puisqu'on a vu même des ministres, en Allemagne notamment, il y a un ministre qui s'est fait choper parce que sa thèse était un copier-coller.
Oh, ben ça date pas d'hier, hein, c'est
le plagiat,
mais ça s'est industrialisé, oui. C'est vrai, avec Internet. Le service le plus dingue testé sur Internet, vous allez nous le raconter, ça sera juste après Nobody Speak.
Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in this crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch, fat boy dressed up like you sound on and took pictures with your kids, we the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench, I'ma mention up, be fresh, I'm a man. Get correct, I will walk into a court while it wrecks, screaming yes, I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked. Shit the Funyuns, flame your crew quicker than Trump fucks his youngest. Now face the flame fuckers, your fame and fate's done with. I walk Charlie Brown, Peppermint, Patty, Linus, and Lucy. Put
dopey. I still remain that dick rabbit slacker to spill the wookie. Cause the total of the Thule will murder you friggin' moolies. Fuck outta here. We top billing it, valiant without villain it, viciously found victory. Burnt towns and villages, burning, looting, and pillaging. Murderers try to hurt us, we curse them and all their children. I just want the bread and bologna bundles to tuck away. I don't work for free, I am barely giving a fuck away. So tell Big and Johnny and Mommy to get the fuck away. Yo, here's a gun, son, now run, get it the gut away. Live to shoot another day.
Le choix musical est sous-traité par Romain Dubrac, le réalisateur de l'émission Run the Joyous. Nicolas Santolaria, vous avez tout de même testé une expérience assez ébouriffante, inventée par les Japonais, il n'y a que pour inventer cela. C'est l'expérience la plus folle de sous-traitance de votre livre.
Oui, c'est le dernier chapitre en fait, avec l'idée qu'au départ je voulais déléguer, sous-traiter des tâches pénibles, et puis à la fin je me suis dit tiens, pourquoi pas sous-traiter aussi l'hédonisme, le plaisir, qui est une injonction aussi.
C'est de la procuration là plutôt.
Voilà, là c'est par procuration, donc j'ai fait appel à une agence de voyage qui fait voyager les peluches à la place des gens. Donc du coup vous envoyez la peluche au Japon, et ensuite donc j'avais offert un Tokyo Tour à une marmotte que j'avais qui venait du fin fond des Pyrénées, et donc cette marmotte a visité Tokyo, et à chaque moment donc du voyage, du trip, elle est prise en photo, les photos sont mises sur les réseaux sociaux, donc ça permet de suivre en live son périple. Et en même temps les Japonais sont tellement à fond là-dedans qu'ils inventent des relations sociales à la peluche, etc. Ils ont une vision très animiste des jouets, et ils font à manger, donc ça devenait complètement délirant, à tel point que...
Vos enfants ont beaucoup aimé, non ?
Ouais, alors la peluche est devenue une vraie star quand elle est revenue du Japon. Du coup, ils se battaient pour savoir qui allait dormir avec la marmotte. Marmotte qui était quasiment devenue une sorte de simili Richard Chamberlain, comme dans Shogun, hein, puisque elle a passé quand même 2 mois et demi au Japon. Et à la fin, elle s'appelait d'ailleurs Marmotte-san.
Elle parle japonais ?
Couramment.
Et donc, en rentrant, vous avez posté une photo de son retour à Paris, sur les toits de Paris.
Oui, j'ai fauté. Alors, c'est
ça
toujours
a beaucoup plu au Japon.
Ça a beaucoup plu au Japon, voilà. Ils l'ont posté aussi sur leur site. Ils trouvent ça très sympa. Et en même temps, le côté un peu Amélie Poulain des toits parisiens, ça produit toujours son effet.
Hédonisme par procuration.
Vous allez mieux depuis.
beaucoup mieux.
Vous ne pouvez pas faire voyager vos enfants, faites voyager leurs peluches.
Voilà, c'est un peu aussi, c'est tout ce qu'on trouve avec les émissions de type Échappée Belle et tout ça, où on voyage par procuration au travers des vies extraordinaires de ces gens.
C'est très courant, ça arrive très souvent sur les réseaux sociaux. En fait, des doudous sont perdus dans les transports et il y a un match entre toutes les équipes ou les compagnies aériennes pour faire voyager le doudou et le rendre et le ramener en fait à son propriétaire après qu'il ait fait une sorte de tour du monde. Donc ça, c'est un truc qui est directement importé. Ce service est importé d'expériences qui ont eu lieu vraiment avec des doudous perdus.
Combien coûte le voyage de sa peluche préférée?
En fait, c'est pas très cher. J'étais assez étonné. Ça coûte une cinquantaine d'euros.
Oui. Sachant qu'elle voyage dans une soute. Hein,
voilà, elle voyage dans une soute.
Mais 50 euros pour un truc qui n'a aucun intérêt, quand même, si je puis me permettre.
J'irai pas jusque-là. Parce que moi, ça m'a plu. Finalement, ça a permis d'échanger.
De l'argent. Oui. Imaginez le type à qui on dit tiens, donne-moi une peluche et donne-moi 50 euros. Elle va voyager dans une soute.
Non, c'est sûr que c'est pas, au Japon.
C'est pas vital. Elle est dans cette agence de voyage, ils ont des locaux, etc. Donc il y a énormément de peluches qui viennent du monde entier. Bon, c'est vrai que pour rebondir sur ce que dit Guy, c'est sûr que c'est pas vital. Moi, je l'ai fait un peu pour le livre.
C'est une boîte qui gagne de l'argent, sérieusement?
Écoutez, ils ont l'air... Oui, parce qu'ils ont, quand on regarde les photos, ils ont énormément de peluches et il y a des arrivages réguliers. Donc là, il y avait des peluches.
Ça, c'est très particulier. On est aussi au cœur de la problématique étrange des Japonais. On est dans des rites et dans des mœurs que nous ne partageons pas forcément.
Alors, en même temps, je me dis que c'est aussi le mouvement aussi de cette société numérique où finalement, notre profil va vivre notre vie à notre place.
Les avatars,
les gens mettent tellement d'énergie et d'affect, par exemple, dans leur profil ou leur photo Instagram, que c'est quasiment l'équivalent de la peluche qui voyage.
Vous êtes complètement sorti de tout ça, Guy Birnbaum. Plus aucun danger.
Ah non, moi je... Non mais,
avec votre manuel pour dresser son smartphone.
Ah non, moi je suis totalement à l'extérieur de tout ça, mais... vous vous rendez bien compte que tout ce dont on a parlé avec Nicolas brillamment pendant une heure est assez catastrophique, en vérité. Je veux dire, il faut bien que nos auditeurs, nos 7 milliards de camarades, de voisins et d'amis se rendent compte que cette société-là, enfin moi perso, je descends direct de l'avion. Ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, c'est sans intérêt, c'est catastrophique et c'est le contraire de la vie sociale dont on parle.
Au-delà de la prise de conscience et de la révolte que ça suscite chez vous, quels sont les conseils que vous donnez de façon très pragmatique? Peuvent sembler évidents, mais...
Non, le premier conseil, celui, alors si pour ceux qui n'ont pas décidé de faire voyager leur doudou, enlevez toutes les notifications de vos téléphones. C'est très simple, vous avez tout un tas d'applications qui vont vous, toute la journée, vous harceler, vous sonner, vous dringuer.
Oui, pour moi, ça me semble évident, mais bon...
Écoutez, malheureusement, observer dans un café les gens autour de vous, c'est pas du tout évident, puisque plutôt que de discuter avec la personne qui est à côté d'eux, à chaque fois que le téléphone affiche quelque chose, ils le prennent dans la main et ils le regardent. Donc, règle de base, on enlève toutes ces notifications, on répond à ces SMS parce que ça peut être la famille, le boulot des amis, on répond au téléphone. Mais vous aurez remarqué, on en discutait en micro avant le début de cette émission, que vous ne laissez plus de messages parce que c'est devenu intrusif, des messages audio, et que plus personne n'écoute les messages. C'est assez extraordinaire. Donc, transformez votre smartphone en téléphone. C'est un conseil.
Voilà une révolution technologique.
Bah oui,
non, mais je suis assez d'accord avec le constat de Guy. C'est vrai qu'on a oublié l'usage premier du téléphone, qui
c'est
quand même de
téléphone.
Se parler. Et du coup, c'est devenu une sorte de barrière, finalement, avec de plus en plus de filtres et d'intermédiaires.
C'est un écran, c'est un sens écran, propre du terme, qui nous empêche de voir les gens en face de nous.
J'allais vous poser la question, Nicolas Santolaria, comment vous êtes sorti de cette expérience de plusieurs mois où vous avez sous-traité votre vie, finalement?
Totalement traumatisé. Non, j'étais content que ça s'arrête, hein, parce que c'est vrai que au final, c'était assez lourd, puisque quand on gère comme ça, quand on sous-traite sa vie, finalement, on a une relation très managériale à sa propre existence, et chaque chose devient un dossier à gérer, à faire avancer, il faut surveiller que les sous-traitants travaillent bien, etc. Donc, contrairement à la vie, qui est un continuum, avec des moments passionnants et moins passionnants, finalement, là, ça devient très, très lourd à gérer. Et le fait de se dire aussi qu'on va se débarrasser de moments qui n'ont pas d'intérêt, c'est très, à mon sens, assez problématique, puisque c'est aussi dans des moments un peu de creux, je veux dire, quand on va faire la queue quelque part, qu'on pèle des pommes de terre pour faire une purée, c'est aussi là où des idées géniales peuvent surgir.
C'est ce que je essayais de dire, sans doute maladroitement, mais que je vais répéter encore plus brutalement, emmerdez-vous. Il faut réapprendre à s'emmerder. C'est absolument essentiel. Ce que dit Nicolas, la queue, on peut rencontrer des gens pour de vrai, acheter ses légumes, toucher les légumes, éventuellement se faire engueuler par l'épicier parce qu'on a appuyé trop fort. C'est ça la vie, non ?
La vie en creux, ça c'est un concept que vous venez de citer, mais en fait c'est ce dont se réclament les cinéastes, par exemple, qui beaucoup de créateurs, d'artistes disent « je travaille justement sur les creux ».
Oui, alors c'est vrai que c'est un peu une maladie aussi du cinéma français, de travailler sur les creux. Il faut aussi
oui,
des
pas
plaintes
désagréable
de temps en temps.
Avec le cinéma français.
Mais non, mais c'est vrai qu'il faut, je suis d'accord, il faut apprendre à s'ennuyer, à avoir des moments comme ça de vide, parce que finalement, cette sursollicitation dont parle Guy dans son livre, avec les notifications et tout ça, c'est aussi ça l'économie de l'attention, et ça nous maintient captifs finalement dans un certain type d'écosystème. Et c'est aussi quelque chose de totalement marchand, puisque moi, tous les services que j'ai testés, c'était essentiellement payant. Donc tout ça, c'est lié à des entreprises,
des profits. Et où vous passez beaucoup de temps à échanger des messages, des SMS, des mails, etc. avec ces entreprises d'ailleurs.
Oui, parce que ça marche beaucoup moins bien.
Je suis en retard, veuillez m'excuser, votre livraison arrivera une heure prévue.
C'est des contraintes en plus.
Ouais, ça
en
marche.
Vrai, c'est des contraintes en plus. C'est ça qui est fantastique. Et alors, il parle de l'économie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout le circuit de la récompense. Et là, on entre dans la partie neuro-psychiatro, etc. Et quand vous discutez avec des addictologues, tout ça fonctionne aussi parce qu'on cherche de la récompense, on cherche du like, on cherche de la dopamine en vérité. Et là, il faut être extrêmement prudent, parce que c'est très dangereux.
Oui, mais là, c'est pas la logique de la sous-traitance, la récompense.
Ou la logique de la récompense, elle est peut-être pas hyper présente dans la sous-traitance. Je dirais que la sous-traitance, c'est au contraire, il y a une promesse aussi qui est la promesse de la vie intense. On va se dire, débarrassez-vous de ce qui est banal, ce qui est ennuyeux.
Sauf que c'est faux.
Et vivez une vie hyper intense, sauf que ça marche pas comme ça, et c'est les choses programmée, c'est une vision très programmée de l'existence. En fait, ça fonctionne pas. Des fois, il y a des moments géniaux qui surgissent quand on s'y attend pas du tout.
Un truc
qui
s'appelle le hasard, en fait, le destin. Vous voyez, des machins complètement débiles, un truc et vieux, qui ne
servent à rien. Ça m'a fait penser votre livre finalement à tous ces programmes de développement personnel où, grâce à des méthodes de développement personnel, on pourrait devenir quelqu'un de plus intelligent, de plus efficace, allant droit au but, où on passe plus de temps à organiser sa vie qu'à faire finalement.
Oui, totalement. Avec cette idée de maîtrise aussi de son existence, maîtriser votre existence, et cette idée aussi très capitalistique, c'est-à-dire on est un capital à faire prospérer, on est chacun une sorte de mini PME qui doit devenir de plus en plus performante, et donc c'est pour ça qu'on fait appel à des sous-traitants, et qu'en même temps le smartphone est devenu central dans cette sorte d'organisation de nos existences. Et justement, je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser autour de ça.
La prochaine enquête, ça sera comment survivre en étant payé au quart du SMIC. Hein.
Voilà.
Là, il va falloir qu'on décode quand même les coulisses de tout
ça. C'est pas la peine d'un
qui sont les sous-traitants des sous-traitants.
Il y a beaucoup de gens dans la rue qui peuvent vous expliquer.
Merci à vous, à tous les deux. En tout cas, Nicolas Santolaria, comment j'ai sous-traité ma vie aux éditions Alary. Merci à vous, Guy Birnbaum. Petit manuel pour dresser son smartphone aux éditions Mazarine. Merci aussi à toute l'équipe. Cécile Lavolo, Baptiste Madinier, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Demain, 7 milliards de voisins, sujet éducation comme chaque vendredi. On parlera du soutien scolaire et des cours particuliers, tiens, justement, sur Internet. Entre autres, mais pas forcément, la France et les pays d'Afrique francophone et la Corée du Sud sont les champions des répétiteurs et autres groupes de renforcement scolaire. Est-ce justifié et juste? On en parlera notamment aussi avec le cas du Bénin qui vient d'interdire les cours, les TD payants dans les lycées. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci à vous tous.